Alors, on va commencer Bezrat Hashem, le chapitre 6. Le chapitre 6, on va commencer maintenant à parler. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de l'âme divine. D'accord? On a beaucoup parlé de l'âme divine. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous donne ce document. Parce qu'avec ce document qu'on a devant nous, on va essayer de faire un résumé de ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé le Tanya. D'accord? On est arrivé au chapitre 6. Donc là, une pause s'impose pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 chapitres. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des vêtements, de la réflexion, on a parlé de l'action, on a parlé de beaucoup de choses. Donc on va essayer de faire un point. Avant de rentrer dans le texte, quitter le texte pour l'instant, on va prendre le tableau qu'on a devant. Il me reste quelques feuilles encore. Voilà, c'est la dernière. Normalement, ceux qui étaient au cours avant l'ont déjà. Alors. Au début du Tanya, on a commencé par expliquer qu'en fait, à l'intérieur de chacun de nous, c'est pas une âme qu'il y avait, mais c'est deux âmes. Ça, c'est une base du Tanya. Ça veut dire que on a toujours l'habitude de se voir comme une personne. Je m'appelle Mendy, tu t'appelles Serge, vous vous appelez Jackie. Chacun, on a un prénom. Mais en vérité, à l'intérieur de nous, une des bases du Tanya qu'on va développer, et cette base-là nous accompagnera tout le Tanya, c'est qu'en vérité, il y a un duo, d'accord? Il y a même un duel à l'intérieur de moi. Il y a constamment deux âmes. On n'a pas encore expliqué ce que font ces deux âmes, mais en tout cas, il y a un conflit. Et ce conflit, on le ressent très souvent dans notre vie. Par exemple, on voit qu'il nous arrive très souvent dans notre vie que le matin, t'es une personne, et l'après-midi, t'es une autre personne. À la maison, t'es une personne, dehors, t'es une autre personne. Ça nous arrive très souvent. Et des fois, nous-mêmes, on a du mal à se situer par rapport à tout ça. On a du mal à comprendre, finalement, qui suis-je. Ça, c'est la grande question du Tanya. Finalement, qui suis-je? Donc, à part ça, on devait expliquer aussi que de manière générale, il y a trois catégories, tzadik, rachat et benoni. Bon. Donc on a expliqué que maintenant, pour comprendre quel est le combat de l'âme divine contre l'âme animale, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'âme divine et qu'est-ce que c'est l'âme animale. Donc nous avons, à l'intérieur de nous, pas une âme, mais deux âmes. D'accord. On a expliqué que nous avons d'abord l'âme animale. Donc là, si vous voulez bien, maintenant, on va prendre dans le tableau que vous avez devant, ici, là, le tableau que vous avez devant. On a ici un B. Vous avez un B?
Oui. L'âme animale primaire.
Voilà, l'âme animale et l'âme divine. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué à propos de l'âme animale et l'âme divine? Donc, on a expliqué qu'il y a d'abord la première âme qu'on appelle l'âme animale. Pourquoi on la met en premier? Pas parce que c'est la plus importante, mais parce que c'est celle qui vient en premier. L'âme divine vient en deuxième. L'âme divine va venir seulement en action, seulement à partir de l'âge de la, qui se rappelle? Bar mitzvah. Donc, l'âme animale, c'est la source de toutes les mauvaises midotes. On avait expliqué qu'il y avait l'eau, le feu, le vent et la terre. Vous vous rappelez? On avait dit que l'eau, c'est la base des plaisirs. Le feu, c'est la base de la colère. Le vent, c'est la base de la frivolité et le temps perdu. Et la terre, d'accord, c'est la base de la fainéantise. Ça, on trouve un petit peu la base de l'âme animale. Bon. À part ça, je passe tout de suite au chapitre en dessous, on a expliqué l'âme divine. Donc l'âme divine, on a expliqué que c'est une partie de Dieu, qu'il y a différentes variétés, mais qu'en vérité, toutes les neshamot sont liées à Kadosh Baruch Hu de la même manière comme dans un grand corps. On avait donné l'image d'un grand corps, que même les ongles sont liés à l'arbre d'Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué la particularité de la neshama du tzaddik, que le tzaddik c'est comme la tête du Ham Israël, comme nous on a une tête et que notre tête dirige le corps. Et enfin, dans le chapitre 2, on avait expliqué le rôle des parents dans la conception de l'enfant, pendant la conception de l'enfant, les parents, lorsqu'ils ont une bonne kavana, ils peuvent donner une neshama qui est plus Kadosh à l'enfant. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième colonne. Et là, vous allez retrouver des notions qu'on a expliquées. Dans la deuxième colonne, on a parlé que de l'âme divine. Que de l'âme divine. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, le côté divin qui est en moi. Donc on a expliqué que cette âme divine, tout d'abord, elle a une structure. Une structure qui est très claire. Elle a une structure intellectuelle et une structure sentimentale. Certainement, vous vous rappelez, on avait fait ce tableau que les anciens ont déjà, sinon je pourrais vous donner après le cours, je reviendrai pas dessus. On avait expliqué clairement, dans lequel on avait expliqué qu'en fait l'âme divine avait en elle une structure qui était composée de 10 sphirotes. D'accord? Dans les 10 sphirotes, nous avons trois facultés intellectuelles, Chorma, Bina, Da'at. D'accord? Donc la conception, la compréhension, la perception et l'attachement quand je m'attache à la chose. Moi, je rentrerai pas dans les détails parce que de toutes les façons, on peut pas résumer en 10 minutes une dizaine de cours. Le but juste, c'est de voir où on va. Ensuite, on avait expliqué qu'il y a trois facultés intellectuelles et 7 facultés émotionnelles. La bonté, d'accord, la sévérité, l'harmonie, etc. Ça, c'était le chapitre 3. Dans le chapitre 4, on a expliqué que, mis à part la structure interne de la neshama, la structure intellectuelle et la structure sentimentale, La Neshama a trois moyens d'expression qu'on a appelés les vêtements. C'est quoi les trois vêtements? Pensée, parole, action. Ça veut dire, autant avant on parlait de la structure, que chacun de nous a une différence dans sa structure, par exemple un est plus bon, l'autre il est plus rigoureux, l'autre il est plus intelligent, l'autre il aime plus réfléchir, l'autre il aime plus être harmonieux. Chacun a ses facultés qui font qu'on est différent structurellement. À part ça, chacun a trois moyens de s'exprimer. Mais c'est un vêtement. C'est quoi le moyen de s'exprimer? Pensée, parole, action. Donc si on parlait de l'âme divine, ben l'âme divine, comment elle communique avec Dieu? En pensant à des divrei Torah, en disant des divrei Torah ou en disant de la tfila, et en faisant, avec l'action, en faisant les mitzvot. Enfin, dans chapitre 5, on a expliqué la notion de communication spirituelle qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On est rentré dans plusieurs chapitres, d'accord, dans lesquels on a expliqué la différence fondamentale qu'il y avait entre les mitzvot et la Torah. Et je reviens au cours de la semaine dernière, dans laquelle, au cours de la semaine dernière, on a expliqué que, autant dans le judaïsme, on insiste beaucoup pour dire que l'essentiel, c'est l'action, autant, comme on a expliqué la semaine dernière, la chance qu'on a quand on étudie la Torah, c'est que la Torah, c'est comme du pain, et que la Torah, ça nourrit l'âme, et ça laisse une trace indélébile en la personne. Donc, en gros, si je pouvais résumer en un mot ce qu'on a expliqué, on a expliqué la structure interne qui se passe à l'intérieur. Il y a une structure qui est composée de 10 sphirotes. D'accord? Il y a une structure intellectuelle dans ma neshama, une structure sentimentale. Il y a des moyens d'expression, pensée, parole, action. Tout ça, c'était juste, on a juste parlé de l'âme divine. Maintenant, à partir du chapitre 6, est-ce que tout est clair jusqu'à là où je peux repasser une fois, ça ne me dérange pas. D'accord? C'est? D'accord. J'ai entendu, c'est pas clair. Non, ça ne me dérange pas de repasser, s'il le faut, sérieusement. On repasse? Peut-être le temps de goûter un peu les pop-corns. D'accord? Voilà. En clair, même ceux qui ont raté le tranche jusqu'à maintenant, ce qu'on a expliqué, c'est très simple, c'est que à l'intérieur de moi, j'ai deux âmes, une âme divine et une âme animale. On a d'abord commencé à expliquer qu'est-ce que c'est cette âme divine. Cette âme divine, c'est une partie intégrante de Dieu, d'accord? Cette âme divine, elle a une structure qui est très claire, trois facultés intellectuelles, sept facultés sentimentales. Cette âme divine a trois moyens d'expression avec Akadosh Baruch Hu, pensée, parole et action. Et cette âme divine, comment elle va communiquer avec Dieu au travers de la Torah et des mitzvot. Les mitzvot, c'est l'action, c'est le plus important. Et la Torah, c'est ce qui permet à la Neshama de nourrir, d'accord? C'est ce qui permet à la Neshama de se nourrir comme le pain nous nourrit matériellement. La Torah nous nourrit spirituellement. Ça, c'est en gros l'âme divine. Maintenant, l'âme divine, on la connaît très peu. Parce que l'âme divine, finalement, on l'utilise très peu. On va l'utiliser quand on fait des prières, et encore, si on a la tête dedans. On va l'utiliser quand on fait une mitzvah. Mais en vérité, la majorité de la journée, c'est pas l'âme divine qui est en fonction, c'est l'âme animale. Parce que pourquoi on l'appelle l'âme animale? Alors c'est là qu'on va expliquer pourquoi on l'appelle l'âme animale. Parce qu'on a tous en nous un côté animal. Qu'est-ce qui fait un animal? Il mange, il dort, il travaille aussi un animal. Pour aller manger, bah, il va devoir aller chasser, il travaille. Il travaille comme nous. Il est marié, il a des enfants. D'accord? Il réfléchit. Pas comme nous, mais il réfléchit. On va expliquer, on va parler de tout ça. Non, je ne suis pas entré pour l'instant dans le bien, dans le mal. Là, j'explique simplement, il y a une âme divine, une âme animale. D'accord? C'est vrai que dans le mot animal, il y a mal, mais je m'arrête pas du tout sur le côté animal. C'est pas mes affaires. Là, pour l'instant, on va s'arrêter maintenant sur le côté animal qui est en nous. Ça veut dire, autant en nous, on a un côté réfléchi, qui est le côté de l'âme divine, autant on a un autre côté qui est le côté animal. Et finalement, quand on réfléchit, c'est vrai. Regardez, je mange, je bois, je dors, d'accord? Plein de choses que je veux dire, comme les animaux. Finalement, quelle différence il y a entre un homme et un animal? Il y a beaucoup de choses qu'on fait exactement comme les animaux. On a des pulsions, d'accord? On a envie de faire certaines choses. On va travailler, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir des petits-enfants. Bon, les animaux aussi, il y a ça.
L'intelligence.
D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change finalement? Ce qui change, c'est un très bon point ce que fait remarquer Serge. Ce qui va changer, ça va, Dan? Alors, ce qui nous fait remarquer, c'est quoi? C'est, ce qui Serge nous fait remarquer un point très, très intéressant, qu'on, d'ailleurs, on va développer longuement dessus, c'est que l'homme a quelque chose de particulier. C'est qu'il a un cerveau. Il a une conscience. Il a un cerveau qui lui permet de comprendre des choses que l'animal n'a pas. L'animal n'a pas de cerveau élaboré comme l'homme. C'est un très bon point ce que tu dis. Mais sur ça, je pose une question. C'est un très bon point ce que tu dis. Mais sur ça, je pose une question. Combien on utilise notre cerveau?
Très peu.
Oui, mais c'est ça la question. Oui. C'est ça la question qu'on doit se poser. Quelle est la composante la plus importante dans notre être? Est-ce que c'est notre cerveau? Ou est-ce que c'est notre comportement? Est-ce que c'est le midot, notre trait de caractère, nos pulsions? Quand on va avancer dans ce chapitre-là, on va se rendre compte progressivement que finalement, si on est honnête avec nous-mêmes, si on est honnête avec chacun de nous est honnête avec soi-même, on va découvrir que très souvent, la composante principale de notre personne, c'est nos pulsions. Dans quoi les gens sont occupés toute la journée ? À quoi il est occupé ? Il est occupé à vouloir obtenir quelque chose, donc il a une pulsion. Il est occupé à chercher à atteindre quelque chose. Il est occupé à être énervé parce que quelqu'un lui a dit quelque chose. Il est occupé à être content parce que quelqu'un lui a dit quelque chose. C'est des pulsions tout ça. Il n'y a pas de réflexion, c'est des pulsions tout ça. C'est de la réflexion, mais c'est des pulsions. Même un animal, il a ça. Même un animal, tu l'énerves, il s'énerve. C'est pas du cerveau, c'est pas ça le cerveau. Donc, t'as bien fait remarquer Serge, t'as dit, nous les hommes, notre capacité, c'est quoi? C'est que le Adam, il est médaber. Il parle. Et pour parler, il faut réfléchir. Parce que parler sans réfléchir, tout le monde peut le faire. Donc, pour parler, il faut réfléchir. Mais la question, c'est, jusqu'à combien on utilise notre cerveau? Et c'est là qu'on va expliquer qu'en vérité, c'est ça la base. Dans ce chapitre-là, on va expliquer que c'est ça la base de la différence qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Dans l'âme divine, l'essentiel, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est le cerveau qui génère tout, comme on avait expliqué. Qu'est-ce qui va générer un sentiment d'amour vers Dieu? Qu'est-ce qui va tout générer? C'est le cerveau. C'est-à-dire que par rapport à l'âme divine, par rapport à la Torah, la composante principale, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est la tête. Alors que dans l'âme animale, la composante principale, c'est quoi? C'est le cœur. Et là, en vérité, on va rejoindre un cours qu'on avait fait, ça fait quelques semaines, mais que j'avais dit qu'on allait développer, et c'est là qu'on va développer maintenant. Attendez, j'y arrive 2 secondes. Je vais juste vous donner une notion sur laquelle on va réfléchir. J'ai pas encore de réponse. D'accord? Mais on va développer cette notion-là aujourd'hui. C'est très simple. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a une première catégorie de personnes qui réfléchit, et suite aux choses qu'ils ont réfléchies, là, ils vont commencer à ressentir. Ça veut dire, je vais réfléchir à quelque chose. Une fois que mon cerveau a compris que c'est pour moi, je plonge et j'avance. Mais tant que j'ai pas compris que c'est pour moi, je n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent qu'avec leur cerveau. Vous remarquerez que surtout dans la société de consommation dans laquelle on se trouve, c'est exactement le contraire. Comment il m'attrape un commercial? Il va m'attraper par mon cœur. Il faut d'abord que ça me parle, qu'il m'attrape, que j'ai envie. Et après, une fois que j'ai envie, le cœur, il va envoyer une pulsion à mon cerveau pour lui dire, bon, maintenant qu'on en a envie, il faut qu'on réfléchisse comment l'obtenir. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Dans la première catégorie, c'est le cerveau qui a décidé. Comme il a décidé, alors progressivement, il envoie un signal au cœur pour lui dire, bon, c'est ok, c'est cachère, tu peux y aller, on peut commencer à ressentir la chose. Mais malheureusement, dans notre vie, ce qui se passe dans la majorité des cas, et c'est la réalité, c'est le contraire. D'abord, j'ai une pulsion qui me dit « je le veux ». Cette pulsion envoie un signal au cerveau pour lui dire « débrouille-toi, il faut que je l'aie ». Donc finalement, qui c'est qui a maîtrisé? C'est le cœur. Ce qui va expliquer dans le cours d'aujourd'hui, le Tania, c'est qu'en fait, ça c'est la différence fondamentale, il y a des exceptions, mais la différence fondamentale qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, c'est que dans l'âme divine, la composante principale est le cerveau, c'est lui qui maîtrise tout, c'est lui qui domine tout, c'est lui qui stoppe tout. Alors que dans l'âme animale, la composante principale, c'est quoi? C'est le cœur, c'est les pulsions. Et lorsqu'il envoie une pulsion négative, eh ben, des fois, même le cerveau peut rien faire. C'est ce qu'on va essayer de commenter aujourd'hui. Alors, pourquoi on a expliqué toute cette structure et pourquoi je vous ai remontré ce tableau qu'on avait fait? C'est très simple. Parce qu'en vérité, nous avons une chance. C'est que Kadosh, enfin, c'est une chance, oui et non. C'est écrit, Zé le Umadze Asa Elohim. Dieu, pour qu'il y ait une notion de libre arbitre dans le monde, il a fait que tout ce qui existe dans le bien existe exactement pareil dans le mal. Ça veut dire, à l'identique, ça veut dire que de la même manière qu'on a développé ensemble dans ce papier qu'on a devant nous, on a vu la structure de l'âme divine qui est composée de 10 sphirotes, d'accord? Il y a les 7 facultés sentimentales, les 3 facultés intellectuelles, 3 moyens d'expression, etc. Et ben, on va retrouver exactement la même structure, mais exactement la même. La même structure dans l'âme animale. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a fait, l'a fait en double. Il m'a donné un œil de droite, un œil de gauche. C'est à moi de décider, quand je regarde quelqu'un, est-ce que je le regarde avec l'œil de droite ou est-ce que je le regarde avec l'œil de gauche? Chaque situation donnée, je peux bien la regarder, je peux mal la regarder. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. N'importe quelle personne que je vois, je peux bien le juger, je peux mal le juger. Akadosh Baruch Hu m'a donné 2 oreilles. Quel est le symbole des 2 oreilles? Pour me dire que c'est pas qu'il y a une qui est bonne et qui est mauvaise, c'est un symbole. D'accord? Pour me montrer que chaque chose que j'entends, je peux bien entendre, je peux mal entendre. C'est à moi de décider comment je vais me comporter. Et chaque chose que Kadosh Baruch Hu a fait dans le monde, pareil, tout. Non, mais attends, on bouge à un. Il y a une question. La Gemara pose la question.
C'est la synthèse?
Ou... Non. La Gemara pose la question et elle s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas au niveau des, comment on appelle ça? Au niveau des vaisseaux qu'il y a ici, il y a une notion de dualité. Mais ça, je rentre pas dedans. En tout cas, c'est une image. Je suis pas en train de dire qu'il y a un œil qui est mauvais. Je suis pas en train de dire qu'il faut bannir l'œil gauche et qu'il faut regarder que de l'œil droit. Chazé shalom.
C'est quoi la symbolique de la bouche?
Voilà, d'accord? Ça veut dire quoi? Même dans la bouche, il y a les dents, il y a le côté droit, le côté gauche. Il y a cette notion-là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a cette notion-là, que dans la vie, il y a toujours le côté droit et le côté gauche. Et tout ce que Dieu a fait dans le bien, il a fait exactement la même chose dans le mal. Pourquoi? C'est-à-dire que la même capacité que Dieu a donnée à la Kedusha, il a donné la même capacité au mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des gens souvent qui posent la question, ils disent, qu'est-ce que vous pensez des forces du mal? Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe, les forces du mal. Ça existe à 100%. Nous avons la Emouna qu'avec des tefilotes, etc., la Kedusha est plus forte, les forces du bien sont plus fortes que les forces du mal, on espère, avec nos prières. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des forces du mal. D'accord? Il y a des forces du mal quand vous allez des marabouts, des trucs comme ça, il y a des forces du mal. Parce que pour créer la notion de libre arbitre, c'est obligatoire que tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut que ce soit exactement égal. Que je peux choisir de ce côté et de ce côté et que les deux tiennent la route. Et les deux tiennent la route. Il y a de la vraie sorcellerie dans le monde. Il y a de la vraie idolâtrie. Il y a du vrai mal. C'est clair. Pourquoi j'explique tout ça?
Ça existe.
100%. De la quoi? Bien sûr, ça existe.
Encore aujourd'hui.
Bien sûr. Si la Torah nous l'interdit, la Torah t'interdit pas d'y croire. Parce que ça existe. La Torah t'interdit de le faire.
De l'utiliser.
De l'utiliser. C'est-à-dire que même la Torah le considère comme quelque chose de vrai. La preuve, elle l'interdit. Elle te dit pas, je t'interdis parce que c'est faux. Elle te dit, je t'interdis parce que c'est pas pour toi. Mais c'est vrai, ça existe. Combien de fois on voit des histoires de tzadikim, des gens qui ne voient des tzadikim, des gens qui étaient ensorcelés? Il y a des gens. Surtout les gens qui ont fréquenté les pays en Afrique, etc. et tout. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, au travers d'objets, etc. Et qui allaient voir des tzadikim, mais il y a des rituels pour ça, des grands tzadikim qui s'occupent de ça. Aujourd'hui encore. Il y a des histoires avec le rabbi, des histoires avec Baba Salé, des histoires avec des grands tzadikim. Parce que quand c'est des gros dossiers, il faut le donner au gros bonnet. D'accord? Ils peuvent s'occuper. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que ça existe. Parce que, il commence le chapitre aujourd'hui en disant, donc là on reprend le texte. Chapitre 6. Perek Vav, donc on est à la page 99. Voilà. Ve'iné, Zel Umadze Asa Elohim. Akadosh Baruch Hu a fait Zel Umadze, ça veut dire l'un en face de l'autre. C'est comme ça. Ça veut dire que le bien et le mal ont exactement les mêmes pouvoirs, exactement les mêmes. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, la même structure qu'on a développée dans le côté de l'âme divine, une structure intellectuelle, une structure sentimentale, des moyens d'expression. Eh ben, exactement la même structure, on le retrouve où? On le retrouve dans l'âme animale. Qui? Oui, vas-y. Alors, je rappelle juste deux secondes. La règle, ça ne donne rien, voilà. Les pauses, oui. Bon, on fait une pause. C'est une bonne question. On va laisser parler le Tania. Voilà. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, Veine, Zé, le Umadze, Asa, Elohim. Akadosh Baruch Hu a fait Zé, le Umadze, ça veut dire l'un en face de l'autre. Ça veut dire le bien et le mal sont l'un en face de l'autre, ça veut dire qu'ils sont équitables, ils sont au même niveau. Pourquoi il nous dit ça? Kikmo, de la même manière qu'on a expliqué dans les chapitres, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, on a développé longuement l'âme divine, on a expliqué sa structure, les facultés, les moyens d'expression, et comment c'était très structuré. Et ben, de la même manière, Kikmo, chez Nefesh et Elohit, Kloulam et Esser Sfirot Kdoshot. De la même manière que l'âme divine est composée de 10 Sfirot qui, elles, sont Kadosh. D'accord? Ça veut dire 3 facultés intellectuelles, 3 facultés sentimentales, mais elles sont kadosh. Ça veut dire, par exemple, si on prenait les facultés sentimentales, dans la faculté sentimentale, il y avait l'envie de donner, l'envie de rigueur. C'est l'envie de donner dans la kedusha. L'envie de rigueur dans la kedusha. L'envie d'harmonie dans la kedusha. L'envie de gagner dans la kedusha. Tout ça, ça reste dans la kedusha. Et ben, de la même manière qu'il y avait une structure de 10 sfirot dans la kedusha, car, ou mitla bechet, bichoshel evushim kedoshim, et que de la même manière que l'âme divine avait 3 moyens d'expression qui sont la pensée, la parole et l'action, eh ben, nous dit ici l'Admour Hazaken, car il en est de même, à Nefesh des Sitra Achara. L'âme animale, mais là, il appelle pas l'âme animale, il appelle l'âme de l'autre côté. C'est quoi son nom, l'autre côté? Il y a un côté, le côté obscur, c'est quoi ça? Alors, vous allez voir, on va expliquer dans la suite de ce chapitre pourquoi on appelle ça l'autre côté. On dit pas le côté obscur, on dit pas le côté noir, on dit l'autre côté. On dirait qu'il y a un côté, et tout ce qui n'est pas dans ce côté, c'est l'autre côté, c'est le reste. Donc,
mais pour autant, il dit pas que l'autre côté, il est clair, il est.
J'ai pas dit non, je parle pas de ni clair ni lumineux, ni bon ni mauvais pour l'instant. Mais klipot nogam lubeshet bedam adam, klulam eser kiptrin de mesa avuta. De la même manière que nous avons 10 sfirot, d'accord, dans le kodesh. De la même manière, nous avons 10 sfirot dans le chol. Nous avons exactement la même structure dans le chol. Par exemple, shehen sheva midodrot. Au lieu d'avoir 7 facultés positives, ça veut dire la faculté d'envie de donner, la faculté de la rigueur, de la structure, la faculté de l'harmonie dans la Torah, la faculté d'envie de gagner, l'humilité dans la Torah, etc. Et bien, de la même manière qu'on trouve ça dans la Torah, on va retrouver exactement la même chose dans le mal. La même chose. L'envie de faire une bêtise. D'accord? L'envie d'embêter quelqu'un. Ça, c'est la rigueur. D'accord? L'envie d'être bien dans sa tête, même quand on a fait une avéra. On va retrouver exactement la même chose. La même structure, la même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le début de ce chapitre va être très court, parce que on va pas refaire ici maintenant 4 chapitres. On veut simplement dire que c'est la même structure. C'est tout. Donc, Shehen, Shehem, Midot, Raot, Abot, Narbaï, Esolot, Raïm, Anal. Il s'agit ici de 7 Midot. 7 mauvaises Midot. Qui viennent des 4 mauvais fondements. Vous vous rappelez qu'il y avait 4 fondements. Il y avait Esh, Ruach, Maïm, enfin, je les ai rappelés au début du cours. Il y avait
l'eau,
le feu, d'accord?
Le vent
et la terre. Qui sont la base de toutes les Midot. De toutes les mauvaises Midot. Vesechel Amolidan, Anechelak, Leshalosh, En, Chochma, Bina, Vadat. De la même manière qu'on avait expliqué Chochma, Bina, Da'at, initiale de Chabad, et qu'on a expliqué comment retrouver ça dans la Kedusha, que Chochma, Bina, Da'at, c'est lorsque le cerveau réfléchit à la grandeur de Dieu, qu'on pense à la grandeur de Dieu et qu'on s'attache à la grandeur de Dieu, et ben, de la même manière, tu retrouves exactement la même chose dans les bêtises. T'as une personne, il va penser à une bêtise, il va réfléchir à sa bêtise, il va s'attacher à sa bêtise, exactement la même structure pile. C'est ça ce qui complique les choses. Parce qu'en vérité, dans la suite du Tania, il expliquera que le corps est comparé à une ville. Et c'est comme dans une ville dans laquelle tu as 2 rois qui se battent. D'accord? Chacun des rois veut prendre le contrôle de la ville. Tu as 2 rois qui se battent pour prendre le contrôle de la ville. Chacun des rois veut prendre le contrôle de la ville. Ben, de la même manière, c'est quoi la ville? La ville, c'est notre corps. Dans notre corps, il y a des capacités. Capacité de réfléchir, capacité de parler, capacité de ressentir, capacité d'aimer, capacité de craindre. Après, la grande question, la grande marloquette, si on peut dire, la grande dispute qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, c'est qu'est-ce que je vais aimer? Qu'est-ce que je vais craindre? Avec quoi, qu'est-ce que mon cerveau voudra aimer? Qu'est-ce que mon cerveau voudra réfléchir? Et ça, c'est le grand combat qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, à savoir, dans quoi ma tête sera occupée? Dans quoi mon cœur sera occupé? Mais c'est exactement la même structure. D'accord? C'est vraiment comme un switch. Ça veut dire, tu peux le mettre en mode Kodesh, tu peux le mettre en mode Roll. Ça, vraiment, on le ressent dans notre vie. On le ressent dans notre vie, comment des fois, on sent qu'on est en mode Kodesh. Et des fois, t'as l'impression que tu utilises exactement les mêmes capacités de réflexion, le même cerveau, les mêmes sentiments, mais au lieu de les utiliser dans le bien, hop, switch, on les utilise en mal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, nous avons en parallèle, à l'intérieur de notre corps, 2 structures qui sont complètement distinctes, mais qui ont la même structure. La structure de l'âme divine et la structure de l'âme animale. Il faut qu'on développe un peu cette notion-là, parce que c'est une notion qui n'est pas facile. Si vous plaît, on fera une pause dans pas longtemps. Qui? Amidot, em lefi erech asechel. Car, les midot, en lefi erech asechel, que les midot, les traits de caractère, vont être selon le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est très simple. Il te dit, en vérité, les gens, on pense qu'on grandit. On se dit, mais voilà, j'ai grandi, regarde, quand j'étais enfant, j'étais comme ci. Après, j'étais adolescent. Après, je me suis marié, d'accord? Après, etc. Après, j'ai eu des enfants. Après, j'ai eu des petits-enfants. Donc, j'ai grandi. Et quand on réfléchit en vérité, est-ce qu'on a réellement grandi? On n'a pas spécialement grandi. Le moteur est resté le même. Seulement, les choses ont changé. D'accord? Seulement, ce que je voulais, ça a changé. Et le commentaire du Maharal de Prague qui explique ça, je pense, c'est un bon commentaire pour illustrer ça. Maharal de Prague, il dit, c'est écrit dans Pirkei Avot, Akina ve'atava ve'akavod, motzin atada mina olam. Que la jalousie, atava, c'est les désirs, les plaisirs, ve'akavod, et la recherche du plaisir, motzin atada mina olam, font sortir l'homme de ce monde, c'est-à-dire qu'ils font faire des choses que jamais il aurait dû faire. Ils le rendent fou. Maharal de Prague, il pose la question dans son commentaire sur Pirkei Avot, il dit, comment ça se fait qu'on nous parle ici de ces 3 choses? Et dans cet ordre, la jalousie, la recherche des plaisirs, et la recherche des honneurs. Et on dit, on les met dans cet ordre-là, on parle des 3. Et si une personne a 1 des 3, si une personne a 2 des 3, pourquoi tu parles de ces 3
ensemble?
Explique le Maharal de Prague. En vérité, ces trois traits de caractère ici correspondent à 3 périodes dans la vie. Il y a une première période dans la vie, la première période, la jeunesse, dans laquelle le moteur d'une personne, c'est la jalousie. Ça veut dire qu'à l'école, à l'université, etc. Qu'est-ce qui va être le moteur d'une personne? C'est la jalousie. La jalousie, ça peut être positif. Ça veut dire, je veux dépasser l'autre, je veux dépasser. Je vais toujours au top, je vais toujours le plus fort. Ça, c'est l'ambition. Oui, c'est pas forcément négatif, hein. Mais c'est la kin'a. Seulement, la kin'a, la jalousie, c'est quand l'ambition s'est transformée en jalousie. Là, ça peut rendre une personne folle. Il se retrouve à être dans des pistes qui n'ont rien à voir avec lui. Ça, c'est une première phase de la vie. Deuxième phase de la vie, après un moment, t'as le même Yetzarara, mais t'as le même moteur, mais il change de cap. Au lieu d'être occupé, la jalousie, c'est les plaisirs. Tu vois, à un moment, il y a un switch, je sais pas, vers 22, 23, 24, 25 ans, ça dépend, il y en a qui arrivent à 30 ans, il y en a qui arrivent plus tôt, ça dépend chacun, et précoce aussi. D'accord? À un moment, t'as un switch, tout d'un coup, tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire? L'autre a qu'à réussir, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est je veux mes kiffs. Je veux kiffer. Et à un moment, les hommes veulent kiffer. Ils veulent kiffer avec des tas de choses. Avec l'argent, avec les maisons, avec les voitures, etc. Avec ce que tu veux. Ils veulent kiffer. Ta'ava. Ta'ava en hébreu, c'est quoi? C'est le plaisir. Mais en vérité, c'est le même Yetzirah, c'est le même moteur. Sauf que, au lieu de vouloir dépasser un autre, maintenant, ce même Yetzirah, il a changé. Et maintenant, il a envie d'avoir du plaisir. Ça, c'est une phase. Ça va durer toute la deuxième phase de la vie d'un homme. Donc ça veut dire quand il va se marier, il aura des enfants, etc. Qu'est-ce qui va le faire avancer? C'est le plaisir. Le plaisir de se marier, le plaisir d'avoir des enfants, le plaisir qu'on peut éprouver des enfants, d'accord?
C'est pas négatif.
Non, c'est pas négatif. J'ai pas dit que c'est négatif. Mais ta'ava, c'est quoi? C'est quand le désir, d'accord, la recherche de plaisir devient interdite. Que là, ça peut rendre fou quelqu'un, une personne qui recherche. C'est pas négatif. Seulement, c'est le moteur d'une personne. Qu'est-ce qui fait avancer une personne lorsqu'il est 30, 40, 50, enfin 30, 40, peut-être même jusqu'à 50 ans, le début de 50 ans, qu'est-ce qui le fait avancer? C'est le plaisir. Il kiffe. Il a envie de kiffer de sa femme, de ses enfants, de son travail. Il cherche le plaisir. Les vacances, etc. Après, il y a un moment dans la vie, il y a un moment dans lequel on passe à la troisième phase, la dernière. Et là, quand on arrive à un certain âge, d'ailleurs, je pense que c'est un bon indicateur pour savoir si on est vieux ou pas, à un moment, il veut ni dépasser les autres, mais ni même pas les plaisirs, parce qu'il espère, ça y est, les plaisirs, il connaît déjà, ça y est, les plaisirs, il connaît. Il veut le kavod. Le kavod. Il peut pas tolérer qu'on lui manque de respect. Et toute la vie tourne autour du kavod. Alors, je suis pas encore arrivé à cette phase, donc je peux pas vous expliquer ce que c'est. Mais apparemment, il y a une phase dans la vie dans laquelle on est, la personne recherche le kavod. Et tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que ma femme m'a dit? Qu'est-ce que lui m'a dit? Pourquoi il m'a dit ci? Pourquoi il m'a dit ça? Et la tête c'est comme ça. L'homme est fait comme ça. Et on sait que très souvent, ceux qui sont plus susceptibles, c'est les personnes âgées. D'accord? Donc, c'est le kavod. Donc, dit le Maharal de Prague. D'accord? Après, il y a les exceptions, bien sûr. Je suis pas en train de... Mais c'est de manière générale, je pense que ça représente trois phases dans la vie. Je pense que chacun peut se retrouver dans ça.
On est d'accord que tu parles de traits de caractère involontaire.
Oui, bien sûr. C'est une nature. Il y a rien de mal, là, pour l'instant. D'accord? Donc, dit le Maharal de Prague. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le Maharal de Prague, il dit en vérité, l'homme n'a pas changé. Il dit, regarde, t'as vu, j'ai changé. Avant, j'étais jaloux, maintenant, je suis plus jaloux. Ah, tu vois, j'ai changé, j'ai fait des efforts. Il dit, non, t'as pas changé. Seulement, ton Yetzirah, il a changé de cap. Donc maintenant, la jalousie, ça t'intéresse plus. Après un moment, tu dis, ah ben, t'as vu, avant, je cherchais les plaisirs, maintenant, ça me fait plus rien. Je vois les trucs, ça me fait plus rien. T'as rien changé du tout. T'as changé de cap. Maintenant, c'est les honneurs. Mais t'es resté le même à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi la nefesh abamit? C'est quoi l'âme animale? C'est les pulsions. Alors, une fois les pulsions, c'est la jalousie. Une fois les pulsions, ça va être la recherche des plaisirs. Et une fois, ça va être la recherche des honneurs. Mais c'est le même moteur à l'intérieur. C'est ce qu'il explique ici. Donc il dit, le même enfant qui, quand il était petit, il faisait une crise parce qu'il voulait un bonbon, ce même enfant, lorsqu'il va grandir un petit peu, il fera une crise pour d'autres choses. Mais c'est le même moteur à l'intérieur, ça n'a rien changé. Il dit, t'as vu, ah, j'ai grandi, t'as rien grandi du tout. Seulement, tu t'es assagi, donc du coup, tu fais des crises pour d'autres choses, parce que t'as compris, mais t'as pas changé. Donc c'est une grande question ce qu'il dit ici. Ça veut dire qu'en vérité, on a appris à devenir un grand animal. Il y a des petits animaux, il y a des grands animaux. Bon, il y a des animaux qui sont dressés. Bon, lui, il est dressé, et ça va, il s'est un peu mieux se comporter. Mais ça reste que beaucoup d'aspects de notre vie, quand on réfléchit, on ressemble un peu à des animaux. C'est vrai. Beaucoup de choses, la manière des fois comment on mange, la manière comment on boit, la manière comment on dort. D'accord? Par exemple, une personne qui a envie de manger. Des fois, une personne qui a très faim, il peut s'adonner à la gloutonnerie. Comme un animal. L'animal, il a faim, il connaît personne. Il y a des gens, et ça peut nous arriver à tous, quand il a très faim, il connaît personne. Il connaît personne. Il vient, il mange.
On va raconter une blague, je pense. Une fois, il y avait un pauvre qui était de passage dans une ville, un mendiant qui était de passage dans une ville. Et quand il arrive dans la ville, il arrive à la synagogue. Et après la prière, il y a un riche qui l'invite. Alors le riche, il l'invite, il arrive à table, etc. Et le riche pose la question au mendiant. Il lui dit, alors, de quelle ville vous venez? Il dit, ah ben moi, je viens de telle ville. Il lui sort le nom de la ville. Alors le riche dit, ah bon, vous venez de telle ville? Mais vous savez que moi, je viens de là-bas. J'ai grandi là-bas. Alors on commence à servir le repas et tout. Il commence à discuter. Et quand ils avancent dans le repas, alors le riche commence à dire, ah ben vous venez de cette ville, mais c'est magnifique. Alors racontez-moi, comment il va monsieur un tel? Alors l'autre, le mendiant, il est en train de manger, déjà il a déjà commencé à manger, il dit, ah il est mort. Et continue à manger. L'autre dit, ah bon il est mort. Après, l'autre il continue à manger, l'autre le temps qu'il digère que son ami est mort, après il lui dit, eh dites-moi, et l'autre, le boucher là-bas qui était là-bas, comment il va? Ah il est mort. Et il mange. Et comme ça, 3-4 personnes, il est mort. Alors, à la fin, le riche, il pose la question, il dit, mais dites-moi, ils sont tous morts ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, quand je mange, tout le monde est mort.
C'est ça, le glouton.
Bon, il avait peut-être faim.
Donc, ça veut dire que finalement, en vérité, quand on réfléchit, l'âme animale change très peu. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et même quand on croit qu'on a changé, en vérité, on n'a pas changé. On s'est assagi, donc on a changé de cap. Le Yitzhara a changé de cap. C'est ce qu'il explique ici. Qui a midot, en lefi erech haserel. Donc, on reprend les mots.
D'un autre côté,
Je termine le paragraphe et après les questions tout de suite, là. Qui a midot, en lefi erech haserel. Car les traits de caractère sont liés au cerveau. Qui a katan, le petit, un petit enfant, comme il a un cerveau qui n'est pas encore développé, donc pourquoi il va s'énerver? Il va s'énerver parce qu'on lui a pas donné un bonbon. Ah, mais un bonbon, c'est la fin du monde. Parce qu'il a un cerveau qui est peu développé. Quand il va grandir et que son cerveau va se développer un peu plus, il va comprendre qu'un bonbon c'est pas grave, et qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes, mais donc il va s'énerver pour ces choses importantes. Donc finalement il a pas changé. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses que je considère importantes, je m'énerve pour ça. Quand j'étais petit, ce que je considérais important c'était un bonbon. Quand j'ai grandi, ce que je considère important, c'est l'autre chose. Mais je suis resté le même. C'est que quand ce que je considère être important, on me le donne pas, je m'énerve. Donc j'ai pas changé. C'est exactement le même moteur. Ça n'a pas changé. Moi, je crois que j'ai changé, mais j'ai pas changé. C'est le même moteur que dès qu'il y a quelque chose que je considère important, selon mon cerveau, je considère important et on me le donne pas, je m'énerve. Maintenant, vous allez me dire, j'attends la question de Michael. Je veux dire, il y a rien de mal dans ça. L'homme est comme ça. On n'a pas dit que cette âme est mauvaise. J'ai pas employé le terme mauvais. J'ai employé le terme animal. On a un côté animal en nous. Ça veut pas dire que c'est mauvais. On a un côté animal. C'est important de le savoir. De comprendre qu'il y a un côté animal en nous. Une fois qu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors on peut mieux comprendre comment combattre le Yitzhara.
Mais pourquoi c'est
constant? Je termine juste le paragraphe. Qui a katan, rochek, vof, dvarim, tanim, proutia, erech. Car l'enfant va désirer et va aimer dvarim ktunim prutia erer, des petites choses, des choses qui n'ont pas de valeur. Les fiches et sirlokatan, parce que son cerveau est pas élaboré. Il a un cerveau qui n'est pas élaboré, donc il va vouloir des petites choses. Et dès qu'on lui donne pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver. Vekatsar le asik dvarim ikarim yotermien, parce que le petit enfant n'a pas le cerveau assez élaboré pour comprendre que le bonbon c'est pas important et quelque chose beaucoup plus importante. Vechen, pareil, mitkaes, de quoi un enfant va s'énerver? Il va s'énerver de petites choses, parce que son cerveau n'est pas élaboré. Et comme son cerveau n'est pas élaboré, par rapport à son cerveau, quelles sont les choses importantes? C'est le bonbon. Et c'est le jouet. Et si papa, il m'a pas acheté le jouet que j'ai vu dans le magasin, c'est la fin du monde. Parce que son cerveau n'est pas élaboré. Quand il va grandir, il va comprendre que le jouet, c'est pas la fin du monde. Et mais il y a d'autres choses qui seront la fin du monde, et ben il s'énervera pour ces autres choses. Donc finalement, on n'a pas changé. Je finis le paragraphe. Donc, de la même manière qu'on avait les sept midot dans le bien, qu'on avait la capacité d'aimer, la capacité de craindre Akadosh Baruch Hu, la capacité de vouloir gagner le Yetzer Hara, la victoire, hein, vous rappelez dans le tableau, le fameux tableau qu'on avait fait, l'humilité qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, et ben, exactement de la même manière, on retrouve la même chose dans le mal, exactement la même chose. Et moi, je crois que je change, mais j'ai pas changé, c'est le même moteur, exactement le même. Seulement, je m'énerve plus pour les mêmes choses. D'accord? C'est-à-dire que ce que je considérais être des petites choses avant, bon, j'ai grandi maintenant, et maintenant, je vise plus grand. Mais c'est le même moteur. Arrêt. De la même manière que dans l'étude de la Torah, on avait expliqué qu'il y avait trois vêtements. Vous rappelez les trois vêtements? Il y avait la pensée,
la parole
et l'action. Et bien exactement de la même manière, dans le mal, qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Qu'est-ce que veut l'âme animale? Elle veut que ma pensée pense un maximum de choses tordues, que je dise un maximum de choses pas cachères, et que je fasse un maximum d'avérotes. Exactement la même chose. Ça veut dire exactement les mêmes vecteurs. Pensée, parole, action. De la même manière qu'avant, je devais étudier la Torah, je devais penser la Torah, parler la Torah et faire les mitzvot. De la même manière, le Yitzhara, il veut une chose, que je pense à des bêtises, je dise des bêtises et que je fasse des bêtises. Exactement la même chose. Parce que rappelez-vous le principe qu'on a dit au début du chapitre, Zé, Lé, Oumad, Zé. Ils sont exactement au même niveau.
La même chose.
Et donc, Shemitlapshot, Ba'em, Beshat, Ma'ase, Odibur, Omar, Hashava. D'accord. Donc là maintenant, quand on arrive à la fin, là on va marquer une pause. Quand on arrive ici, ce qu'on comprend, c'est que nous avons à l'intérieur de nous pas une entité, mais deux entités qui sont exactement les mêmes. Seulement une veut faire le bien et l'autre est plutôt animal. Alors la question qu'on se pose et la question qu'on se pose tous maintenant, c'est quand on parle de l'âme animale, est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et surtout, on va revenir à une question que plusieurs personnes ont posée ici quand on a fait le premier chapitre. Quelle est la définition du bien et du mal? Qu'est-ce que c'est le bien et le mal? Bien sûr, tout le monde sait que tuer quelqu'un, c'est pas bien. Ça, tout le monde le sait. D'accord? Tout le monde sait que voler, c'est pas bien. Tout le monde sait que faire une mitzvah, c'est bien. D'accord? Mais quelle est la définition absolue du bien et du mal? Est-ce que la Torah nous donne une définition du bien et du mal?
Ah, c'est Nietzsche qui l'a décrit.
D'accord?
par-delà le bien et le mal.
Alors ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. Parce qu'une fois qu'on a compris maintenant qu'il y a l'âme divine, il y a l'âme animale, l'âme divine, on connaît son but. L'âme divine, on sait. Elle, son but, c'est faire les mitzvot. Mais l'âme animale, on n'a pas trop compris. Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme animale? D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quel est le rôle de l'âme animale? Donc ça, on va développer dans la suite du cours, mais avant ça, on va marquer une pause. Il y avait des questions. Alors, dans l'ordre, allez-y. Ça y est, elle est partie? Bon.
Enfin, l'évolution, là, vous dites qu'elle n'a pas changé. Ce sont les pulsions qui ont changé. On n'a plus les mêmes pulsions quand on est bébé par rapport. Enfin, on a les mêmes pulsions, mais l'objet n'est plus le même.
Non, c'est très simple. C'est ça que j'ai amené l'exemple du Maharal de Prague. Quand je suis petit, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il y a chez l'autre. Quand je grandis un peu, je comprends que ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que j'ai chez moi. Et quand je grandis encore un peu, et que je comprends que ni j'aurai ce que j'ai chez les autres, et ni j'aurai ce que je veux, je comprends que le plus important, c'est la manière comment les autres me regardent. Mais finalement, c'est la même chose. C'est que je vais m'énerver pour une chose que je considère importante. Quand j'étais petit, je m'énervais quand il y a une autre personne qui me dépassait. Quand je suis un peu plus jeune, un peu plus âgé, je m'énerve quand je n'obtiens pas mon plaisir. Et quand je suis encore plus âgé, je m'énerve quand je reçois pas l'honneur qui m'était dû. Mais c'est exactement le même moteur. C'est à chaque fois qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça c'est important, on me l'a pas donné. Donc je cherche à arriver à ça, on me l'a pas donné, je m'énerve, on me l'a pas donné, je suis pas content. De quoi je vais m'enorgueillir? Du fait qu'on m'a donné du honneur, d'accord? Ou bien du fait que j'ai eu un plaisir, ou bien du fait, encore plus jeune, que j'ai dépassé quelqu'un. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui a changé c'est pas le moteur. Ce qui a changé, c'est le cap que j'ai pris. Que quand j'ai grandi, alors automatiquement, comme j'ai compris que certaines choses sont plus importantes, les choses que je considère importantes à ce moment-là, c'est pour ça que je m'énervais. Mais finalement, je suis resté le même.
Mais parce que l'individu, il a évolué?
Non, il n'a pas évolué. L'individu,
alors, comment il va passer?
Son vécu a évolué. Son vécu, vous avez parlé de l'autre, comment il s'appelle? Son vécu a évolué. Comme son vécu a évolué, donc son vécu a compris qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes. Des choses qu'il croyait importantes ne sont pas importantes. Mais ça change pas que l'âme animale qu'il a en lui, le moteur qu'il a en lui, qui fait que quand une chose que je veux, je ne l'obtiens pas, je m'énerve, il est resté exactement le même. Le même bébé qui faisait ses crises quand il avait un mois, c'est le même vieux à 80 ans que quand on lui donne pas son kavod, hop, il fait un shkemba, il fait un scandale. C'est le même, exactement le même, il n'a pas changé. Seulement avant, quand il était petit, ce qui l'énervait, c'est le biberon. Maintenant, ce qui l'énerve, c'est qu'on ne l'a pas donné le honneur. Mais c'est le même, il n'a pas changé. Ce que je considère être important, on ne me l'a pas donné. Donc je m'énerve. Ce que je veux, ce que j'aime, c'est ça. Il n'a pas changé, c'est le même. Vous voyez ce que je veux dire? Son vécu a changé, mais lui n'a pas changé.
C'est une exigence?
Alors, donc là, la grande question... Non, c'est pas une exigence. La grande question qu'on se pose, c'est finalement... Alors, il y a deux questions qu'on se pose maintenant. Après, je passe aux questions. Deux questions qu'on se pose ici. D'abord, est-ce qu'on peut changer l'âme animale? Est-ce qu'on peut changer son caractère? C'est la première question. Bah oui. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on dit ici, apparemment, c'est le même moteur. Alors, est-ce qu'on peut changer de moteur? Est-ce qu'on peut optimiser son moteur? D'accord? Est-ce qu'on peut lui mettre, un V8, un V12, je sais pas, on peut pas changer quelque chose? Alors, est-ce qu'on peut le brider? Je sais pas. Est-ce qu'on peut, donc, deux questions. Première question, est-ce qu'on peut optimiser, est-ce qu'on peut changer son caractère, donc son âme animale? Parce que l'âme animale, finalement, on a bien compris. Ah bon, t'as juste deux secondes, après les questions tout de suite. L'âme animale, on l'a bien compris, c'est le caractère. Voilà, là, quand on lit, si on pouvait définir en un mot, c'est le caractère. Et on a compris que le caractère, notre caractère nous accompagne toute notre vie. On reste, le caractère ne change pas. Alors, est-ce que la Torah pense qu'on peut changer le caractère? D'accord? Oui ou non? Parce que Freud, par exemple, pense que non. D'accord? Alors, qu'est-ce que la Torah pense? Est-ce qu'on peut changer ou on peut pas le changer? Pour l'instant, apparemment, non. On va développer. On va voir. La réponse sera oui, mais d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on peut pas changer de manière absolue. Premièrement. Et deuxième question qu'on va se poser, quelle est la définition du bien et du mal? Donc, deux grandes questions qu'on va faire que commencer à développer aujourd'hui et que ça va nous prendre un peu de temps pour développer. Allez-y, il y avait d'autres questions.
Le parallèle des séphirotes positives
et négatives.
Ouais. Bon. L'individu va devoir jongler en permanence entre l'une et l'autre.
100%. Oui.
D'accord. Par rapport, donc, il arrive. Donc, c'est une certaine, c'est une sarara. D'accord. Donc, maintenant, l'individu, dès lors qu'il a conscience qu'il a ces deux forces en lui, et tu as dit tout à l'heure qu'elles étaient de même importance, donc, comment basculer le négatif vers le positif, parce que dans toute action négative, on peut sortir quelque chose de positif.
Oui, d'accord, je comprends. Oui.
Comment on va procéder? Alors, quels sont les moyens, les outils qui vont permettre de diminuer cette importance-là du négatif par rapport au positif?
D'accord. Alors, maintenant, avant de répondre à cette question, il faut d'abord développer beaucoup de choses. Là, on a fait que commencer à développer l'âme divine et l'âme animale. Après, dans les chapitres suivants, on expliquera le combat qu'il y a entre les deux. Et une fois qu'on aura compris le combat, on pourra commencer à développer les techniques de combat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est seulement au chapitre 13 qu'on commencera à développer les techniques de combat. Parce qu'avant de développer les techniques de combat, il faut d'abord analyser les acteurs, le terrain, il faut tout analyser d'abord. D'accord? Les acteurs, le terrain, le jeu, et après seulement on va commencer à développer les techniques.
Parce qu'on sait que le combat char va venir, le côté négatif va disparaître quasi instantanément.
D'accord, donc là on touche à la deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle le mal? Voilà, tout de suite. Une autre question, vas-y.
D'après ce que j'ai compris, ça va se voir par la suite. Moi, ce que je voulais voir, c'est quelle approche il fallait voir par rapport à ça. Parce que là, on parle pas d'une avéra, mais de quelque chose de constant. Ouais. Alors que normalement, quand il y a une avéra, et c'est même pour ça que ça permet de, on va dire, de juger, voilà, il y a tel cas qui se présente à moi, soit je le fais bien, soit je fais un péché.
D'accord.
Là, en fait, c'est vraiment sur la durée. Donc c'est vraiment quelque chose de constant. Donc, voilà, parce que tout au long de la vie, on peut choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ok, j'ai fait un péché, ok, j'ai pas fait un péché. Mais là, c'est quelque chose sur la constance.
Tu as remarqué que j'ai pas parlé de péché jusqu'à maintenant.
Non, mais bon.
C'est voulu. Choix, non, c'est voulu.
En quelque chose de bien.
C'est voulu parce que j'ai pas parlé de péché. J'ai parlé du côté animal.
C'est mon ami.
Tu as raison. Donc, on revient à la question qu'on a posée. Qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal? On n'a pas dit le mot faire avéra là.
Non, c'est pas du tout ça. Là, ce que j'essaie de voir, c'est la constance et comment il faut voir
sur la durée.
Comment nous on doit approcher la chose sur la durée, parce que là, quand j'ai un choix entre une action qui peut être bien ou pas bien, là justement, c'est sur une constance. Donc la chose, elle est.
J'ai compris.
Elle doit être différente.
D'accord. On va développer cette notion là aussi. La constance. J'ai compris. Sur la durée.
Oui, mais ça va faire une action. Ben là, t'as choisi. Ok. Donc ça va faire.
Bonne question.
Ça va se faire sur la durée. Mais là, c'est quelque chose de tout le temps constant.
D'accord.
Quelque chose de constant.
C'est une bonne question. On va développer ça dans la suite. Vas-y.
Est-ce que l'Yetzara, c'est l'âme animale?
Pour l'instant, oui. Oui. Pour l'instant, c'est le terrain, c'est l'âme animale.
C'est le côté matériel.
Pour l'instant, on va dire que c'est l'âme animale.
Réside.
Mais, encore une fois, vous avez remarqué qu'on l'a appelé l'âme animale. On ne l'a pas appelé rat. On l'a appelé animal. Parce que dans l'animal, il n'y a pas forcément des choses mauvaises. L'envie de manger, par exemple, c'est animal. Mais ce n'est pas mauvais, l'envie de manger.
Mais là, tu parles de besoins physiologiques.
Voilà. Donc, pas que de ça. Non, je parle du caractère aussi. Même un animal a un caractère.
Bien sûr.
Tout le monde a un caractère. Un caractère qui va l'accompagner aussi toute sa vie. D'accord? Voilà. Il a un caractère. Bien sûr qu'il a un caractère. Il a un caractère, il a un style. Donc c'est la première question. Alors on y va. Autre question? Vas-y.
La différence, le cœur. J'ai envie d'acheter un iPhone 5. C'est le cerveau qui va le cœur.
Pas du tout.
Oui, c'est le cerveau qui va l'iPhone qui va.
Pas du tout. Ton cœur a envie. Donc comme ton cœur a envie, il envoie un signal. C'est très simple. C'est que. Très simple. C'est que t'as une pulsion. Ton cœur te dit, je le veux. Maintenant, il faut que tu t'expliques pourquoi tu l'as besoin, alors que tu l'as pas besoin. Donc le cœur, il dit au cerveau, explique-toi que tu en as besoin. C'est le rôle du commercial. Le commercial, il t'attire à quelque chose, et après, il veut que du cœur, ça part vers le cerveau pour t'expliquer pourquoi tu as besoin de la chose.
Pourquoi tu dis le cœur, il sert à...
Oui, mais le cœur, non, je parle pas du cœur. C'est le cœur, c'est le symbole des pulsions.
Ah, d'accord.
Voilà. Oui. Parce que c'est le côté animal, c'est comme un animal. Sur ça, on est exactement comme les animaux. Sur ce côté-là, c'est exactement la même chose qu'un animal. Il a un caractère, il a envie de manger, il a envie de dormir, il s'énerve, il aime des choses, exactement comme un animal. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est le côté instinctif, le côté animal. Ok. On continue. Vehen hem. Donc là, on reprend. Page 102 en bas de la page, Azek. Vehen hem kol ha-ma'asim asher na'asim tachat ha-shemesh. En vérité, maintenant, donc là maintenant, on va rentrer dans la grande question qu'on a posée. Qu'est-ce qu'on appelle le bien? Qu'est-ce qu'on appelle le mal? D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'on appelle le mal, pour l'instant, en tout cas l'âme animale? Vehen em kol ha-ma'asim asher na'asim tachat ha-shemesh. On parle ici de toutes les actions qui sont faites sous le soleil. Alors c'est une expression faite sous le soleil, qu'on va expliquer ici. Asher hakol evel ve'raot ruach. Là, l'Admor HaZaken va nous donner une définition qui n'est pas facile à comprendre. Nous, jusqu'à maintenant, on a toujours cru qu'il y a trois catégories de choses dans le monde. Il y a le bien, il y a le mal, et est-ce qu'il y a une autre? Comme ça, on a toujours compris. Il y a les mitzvot, ça c'est le bien. Il y a le mal, tuer quelqu'un, voler, les bêtises, etc. Et il y a au milieu les choses neutres comme manger, dormir, boire, etc. Que ça c'est neutre. La Gemara Hazaken va nous expliquer aujourd'hui qu'il n'y a pas trois catégories, il y a deux catégories. Il y a le bien et ce qui ne l'est pas. C'est tout. Maintenant, ce qui ne l'est pas, il peut être mal, il peut aussi ne pas être bien. Mais le fait même qu'il n'est pas bien, pour nous, c'est déjà les deuxièmes catégories. C'est pour ça que le Zohar, quand il parle de cette deuxième catégorie, il ne lui donne pas de nom. Il ne dit pas le mauvais côté, le côté obscur. Il dit l'autre côté. Parce que il y a le bien et il y a tout le reste. Donc, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce que c'est le mal, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'est le bien. Et une fois qu'on a compris qu'est-ce que le bien, on aura compris que tout le reste, c'est pas du mal, mais c'est pas du bien. D'accord? Donc, il y a le bien et il y a ce qui ne l'est pas. Donc, vous allez comprendre pourquoi c'est important de le définir. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important de définir comme ça les choses.
Alors, ça veut dire que déjà, très important. Il a du mal à
parce que dans la vie d'un juif, c'est binaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent, d'accord? Beaucoup de gens qui pensent. Ils disent, voilà, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en vacances. Ni j'ai fait des mitzvot, ni j'ai fait des averot, je suis neutre, j'ai mis en pause. Il n'y a pas de pause chez un juif. C'est binaire. C'est soit j'ai fait du bien, soit je n'en fais pas. Donc il faut qu'on explique. Ça, c'est une notion qu'on va devoir bien expliquer. Donc ça, je ne pense pas qu'on aura, le temps de la terminer aujourd'hui, mais au moins on va commencer. Vehenhem. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? J'ai pas compris.
Pas son beau-frère, son
beau-frère, c'est d'accord. Alors, Vehenhem. Et ça, c'est bon ou mal ou neutre? Bon, bah, David, on va faire une pause de Chaïm. Où tu es, David?
Hein? Non, en fait, on a fait. Non, faut pas l'ouvrir, celle-là. Il y en a une au froid là-bas.
Ah, bon, David, alors tu...
Vas-y. Ah, il est costaud, hein.
Il est costaud. Pourquoi pour que ça nous réchauffe, il faut que ce soit frais?
Non, non, alors. C'est pas exprès, c'est ce qu'on m'a dit, monsieur Bismuth.
Bon, ouais, tiens, David. Tu es encore jeune, David. Hein.
David, elle est fraîche, hein. Elle est fraîche, là.
Non, 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 elle est fraîche. Ah,
là, là. Allez, elle là. Fromage. Allez, l'Echaim. L'Eilou Nishmat.
Khalifa ben
Rachel.
Un millimètre. Non, non, merci. Je sais pas. Attends.
Les Lounishmat, le papa de Monsieur Cohen, Khalifa ben Rachel. D'ailleurs, je profite de cette pause pour rappeler que toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines, c'est David qui paye. C'est David qui paye la petite souda.
Écoutez ce qu'on est en train de vous dire.
D'accord. Et que comme Jackie Cohen m'a fait remarquer tout à l'heure, il a raison. Il a dit c'est pas normal. Ouais, on devrait faire une caisse.
Ouais,
chacun y met peut-être 10 euros, 15 euros, quelque chose. On remplit la caisse de temps en temps.
5 euros, 1 centime d'euro, mais participer.
Mais c'est important, comme ça. Parce que bon, à la base, moi, honnêtement, moi, à la base, on vient pas ici pour ça. Mais c'est toujours.
Ça met de l'ambiance.
Ça met de l'ambiance. Et pour que l'âme divine écoute, il faut faire taire l'âme animale. C'est aussi une manière de faire taire l'âme animale. Tout le monde a pris le Chaïm? Ah oui, bien sûr. Messieurs, tout le monde est servi? David, alors? Non, pas Raphaël,
Bon, est-ce que quelqu'un se propose la semaine prochaine?
Prends-les. On va faire une caisse, je t'en prie.
Non, on fait la caisse.
On fait la caisse. Une caisse, chacun y donne. Voilà.
Parce que si tu charges quelqu'un, après...
Il n'est pas chargé. Quelqu'un, oui, oui, il le fait. Il s'engage à faire.
Khalifa ben Rachel, Chaim le Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro.
Amen.
Allez. Tu vas la finir?
Alors,
ok, on continue.
J'ai une question. Pêche abricot, on voit ou on voit pas?
Où c'est pêche abricot? J'ai pas compris.
C'est pas sur la liste, mais tout le
monde. Regarde la composition.
Ah non.
Je sais pas.
Il n'y a pas de raison.
Tu n'as pas l'application sur l'iPhone?
S'il n'y a pas de raison, c'est bon.
Donne Lulu connaît les trucs.
Non, il n'y a pas de raison.
On prendra payer.
Tiens,
pas de raison à faire là.
C'est la file carbonique.
Vehen, hen. Allez, on y va, rabotaille. Donc maintenant, la définition sur laquelle on va s'arrêter, c'est.
C'est bon?
Non.
C'est pas bon? Alors.
C'est quoi qui m'en vient?
L'acide carbonique.
Ah d'accord.
Donc, de toute façon, il y a une liste, ce qui n'est pas sur la liste.
Oui, ouais, l'application quand il sort.
Je ne sais pas comment il a atterri. C'est pas moi qui l'ai acheté en tout cas.
C'est pas moi non
plus. Ok. Alors, rabotaille, on continue. Donc, la question qu'on est en train de se poser maintenant, c'est
Une fois qu'on a compris, Rabotai, qu'à l'intérieur de notre personne, de notre être, d'accord? Allez, s'il vous plaît, Rabotai. D'ailleurs, en passant, vous savez, une fois qu'on aura compris la définition de ce qui est permis et ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on appelle le bien et qu'est-ce qu'on appelle le mal, on pourra comprendre dans le chapitre 7, c'est dans pas longtemps, c'est le prochain chapitre, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est permis et quelque chose est interdit? Quelque chose est cachère et quelque chose n'est pas cachère. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est cachère et qu'une chose n'est pas cachère? Et ça, on pourra l'expliquer seulement une fois qu'on a compris qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Une fois qu'on aura compris ça, là, on pourra comprendre. Ça va expliquer beaucoup, beaucoup de définitions. D'accord? On y va. Donc, nous dit l'Admor HaZaken, contrairement à ce qu'on aurait pu penser qu'il y a trois catégories, en fait, pour un juif, peut-être pour le monde, c'est comme ça, qu'il y a trois catégories. Il y a les choses bien, il y a les choses mauvaises. D'accord? Il y a accomplir une bonne action, il y a accomplir une mauvaise action, et il y a tout ce qui est neutre, comme aller au boulot, manger, dormir, etc. Chez un juif, il n'y a pas ces trois définitions. Il y a deux définitions. Il y a le bien et il y a ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la Torah va nous apprendre que même quand je mange, même quand je dors, même quand je bois, je peux le faire pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc même ça, ça peut être bien. Il n'y a rien qui est neutre. Toute chose que je fais dans ma vie peut être au service d'Akadosh Baruch Hu. Même aller au travail, même si mon travail n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, je peux le faire pour servir Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une base du Tania. De comprendre qu'en vérité, il n'y a pas deux définitions, il n'y a pas trois définitions, il y a deux définitions. Il y a le bien et ce qui ne l'est pas. Et le rôle d'un juif, c'est d'essayer de mettre un maximum de choses, de pensées, de paroles, d'actions, du bon côté. Donc maintenant, à nous de définir qu'est-ce qu'on appelle le bien. Et là, le bien, en vérité, on va pas se limiter uniquement au mitzvot, on va se limiter à la définition du bien. Qu'est-ce que le bien? Vehen em, kol ha-ma'asim, asher nasim tachat ha-shemesh, asher ha-kol evel vera-odouar. Toutes les actions qu'on fait sous terre, kumosh shekatuv bezohar beshalach en tviru derucha. Une action qu'une personne fait par défaut. Ça veut dire qu'il le fait pas pour un kadosh baruch, il le fait pour lui. Le Zohar appelle ça que c'est comme des débris d'esprit. Littéralement. C'est-à-dire quoi un débris d'esprit? Ça veut dire que t'as une neshama qui t'a donné une énergie. Au lieu d'utiliser cette neshama pour servir à Kadosh Baruch Hu, tu l'utilises pour faire des bêtises. Alors c'est quoi des bêtises? Vechen, kol adiburim vechol amachashavot asher lo lachem ema velirsono velavodato. C'est très simple. Tout ce qui n'est pas dédié à Dieu, toutes les pensées, paroles, actions qui ne sont pas dédiées à la volonté de Dieu et au service divin, ça rentre tout de suite dans l'autre côté. Maintenant, ça peut être tout simplement, je vais au boulot. C'est tout. J'ai pas fait d'avéra, j'ai rien fait, j'ai arnaqué personne. Mais je le fais pas parce que je me dis je vais aller au boulot et grâce à ça je vais servir à Kadosh Baruch Hu parce que grâce à ça je vais fonder une famille, grâce à ça je vais pouvoir nourrir ma femme et mes enfants, je vais pouvoir payer l'école juive de mes enfants. Je pense pas à ça, je vais au boulot parce que je vais au boulot, c'est tout. Et ben ça on te dit automatiquement si tu n'acceptes pas que tout ce que tu le fais pour Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que tout ce côté-là de ta vie, il passe dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que quelque part ce serait une manière de dire que il y a moi et il y a Dieu. C'est un peu ça ce qu'il va développer aujourd'hui. Ça veut dire que, il y a moi quand je suis en train de servir Dieu, et il y a moi quand je m'occupe de moi. Donc, on va toucher à l'égoïsme. Il va expliquer l'Admor HaZaken dans ce chapitre, qu'il n'y a rien, attendez, s'il vous plaît, je vous laisse arriver là. Les pauses, c'est pas maintenant. Qu'il n'y a rien de pire dans le judaïsme que l'égoïsme. Autant l'égoïsme n'est pas forcément une avéra. C'est pas forcément une avéra, l'égoïsme. Mais, c'est pas une avéra, non? Il y a des cas dans lesquels c'est pas. L'égoïsme, c'est pas forcément une avéra. Mais le mal que l'égoïsme peut faire à une personne, ça peut faire du mal encore plus que toute l'avérote. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, c'est le contraire même du judaïsme. Qu'est-ce que te dit le judaïsme? Le judaïsme te dit, tout ce que tu fais, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pas pour toi. Pas pour ton égo. Alors que qu'est-ce que te dit l'égoïsme? Il te dit, égocentrique, il te dit, tout tourne autour de moi. Donc c'est pile le contraire de la Torah. Donc tu dis là de Admor HaZaken, nous on croyait qu'il y avait trois catégories. Il y avait le bien, le mal et ce qui est au milieu. Tu te dis mais non, ce qui est au milieu, tu le fais pour qui? Tu as bien une raison pourquoi tu le fais. Tu le fais pour Dieu, tu le fais pour qui alors? Je le fais pour moi. Donc c'est de l'ego. Donc l'ego c'est pas bon. On va développer tout de suite. Chez Zéou Pirouche, la chaîne Sitra Achara, Pirouche, Tzad Acher, chez Einot Tzad Akdusha. Tout ce qui n'est pas du côté de la Kdusha, ça passe de l'autre côté. C'est pas forcément du mal, mais c'est pas de la Kdusha, donc ça passe de l'autre côté. Le tzad akedusha, le côté de la kedusha, eino eila ashra ve'amshara mikdushato shel kadosh baruch hu. La kedusha, c'est uniquement constamment réfléchir comment je peux faire pour servir un kadosh baruch hu. Là, évidemment, quand on lit un texte comme ça, on se dit mais on est clairement à côté de la plaque. Et c'est là qu'on commence à comprendre que même si on fait beaucoup de mitzvot et qu'on fait très peu d'averot, tu dis mais je peux pas dire que tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Donc c'est là, en vérité, il est en train de nous préparer le terrain pour la suite du Tanya. Pour nous expliquer que quelque part, on aimerait bien être tous être des Benoni. Pourquoi? Parce que quand on lit que ça c'est la définition du bien, et que être bien ça veut dire que tout ce que je fais pour Akadosh Baruch Hu, là je me dis, est-ce que tout ce que je fais pendant ma journée je pense à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je vais dormir pour Dieu? Est-ce que je mange pour Dieu? C'est vrai que je fais une bracha avant et après, mais est-ce que quand je mange mon steak, je le mange pour Dieu? C'est compliqué. Ah bah c'est ça. Ça veut dire, ah, très bonne question, ça veut dire que je le mange pour prendre l'effort pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est très difficile à réfléchir comme ça. Je peux le faire de temps en temps, mais est-ce que j'arrive à vivre constamment comme ça? C'est très compliqué. C'est presque impossible. D'accord? Bien sûr. Donc au plaisir que ça me procure.
Alors,
vous savez, on dira par exemple dans le chapitre 7, je vous donne un petit preview. On expliquera dans le chapitre 7 qu'il y avait un maître de la Gemara qui s'appelait Rava. Un grand maître, un des plus grands maîtres de la Gemara qui s'appelait Rava. Et on raconte que Rava, avant de commencer son cours, il rentrait chez lui à la maison et il demandait à ce que sa femme lui serve du bon vin et de la bonne viande. De la viande bien grasse. D'accord? Ça dit la Gemara. Et la Gemara a dit quand ses élèves lui posaient la question, il dit mais comment, enfin c'est, même les élèves, il y a quelque part une sorte d'incohérence. Tu t'imagines le rave avant de donner son Dvar Torah, il va être, tu l'imagines chez lui en train de manger un bon steak et un verre de vin. Tu dis bon, il y a pas de problème, mais la briout en bonne santé, mais on a un peu de mal à voir un grand rave qui avant de faire son cours, il est là, il dit attendez, il me faut d'abord mon steak et mon vin. Ça fait un peu pathos. Alors qu'est-ce qu'expliquait la Gemara? Bien sûr qu'elle est cachée. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara répond. C'est une histoire qui est dans plusieurs Gemarotes. À chaque fois avec des petites variantes. On en parlera dans le chapitre prochain, chapitre 7. Et là-bas, la Gemara explique que pourquoi Rava il faisait ça. Parce que Rava il sentait que son cours était différent quand c'était après un steak.
Ah, d'accord.
Oui. Donc son steak il prenait pour servir à Kadosh Baruch Hu.
Ah oui, d'accord. Non.
On est pas Rava. D'accord? Ah bon, un steak, j'ai modernisé, hein, c'est bisra de Torah, c'est-à-dire de la viande bien grasse, bon. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rava, pour lui, manger son steak, c'était une manière de mieux servir à Kadosh Baruch Hu, de mieux donner son cours.
Oui, d'accord, mais enfin, il est jugé parti là-dedans. Hein.
Oui, t'as raison.
Qui vous a dit qu'il était bon le steak? D'accord? Ok. Donc, pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire. Et une histoire qu'on raconte avec le... Parce que je pense des notions comme ça, des notions fines comme ça, il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour illustrer. Il y a une histoire avec, une fois, hein, avec le Baal Shem Tov. Une fois, hein, il y a un grand érudit qui a entendu parler de la Chassidoute du Baal Shem Tov, mais qui n'était pas proche de la Chassidoute, et qui s'est dit, comme il était érudit, il s'est dit, bon, les gens parlent beaucoup du Baal Shem Tov, bon, d'un côté j'entends des bonnes choses, d'un côté j'entends des mauvaises choses, donc il n'y a rien de mieux que moi-même aller voir, pour essayer de voir, pour moi-même voir de mes propres yeux, qu'est-ce que j'en pense. Seulement, il s'est dit, comment je vais le tester, le Baal Shem Tov? Bah oui, parce que lui, son but, c'était un érudit, il voulait tester le Baal Shem Tov. Il dit, comment je vais le tester? Il dit, je vais le tester en Torah, j'ai entendu qu'il est très bon en Torah. Mais c'est pas comme ça que je vais tester. Parce que sa force, le Baal Shem Tov, il est très fort en Torah, mais c'est pas ça sa force. Sa force, c'est, on dit de lui qu'il a une sorte de Ruach HaKodesh, d'inspiration divine. Comment moi, je vais tester l'inspiration divine? Je connais pas. Moi, j'ai pas l'inspiration divine. Alors l'érudit, il a pensé comme ça. Il a dit, je vais aller sans me présenter. Sans me présenter, je vais venir incognito. Et je veux voir, est-ce que tout de suite, dès que je vais rentrer, est-ce qu'il tout de suite il va me cerner? S'il va me cerner sans que je lui ai parlé, sans que même j'ai eu le temps de parler un Dvar Torah avec lui pour qu'on ait le temps chacun de se connaître un petit peu, de voir un peu nos capacités, s'il arrive à me connaître sans que je parle, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, écoutez cette histoire. C'est une histoire que la ville je connais pas, mais en tout cas ça se passe du vivant de Baal Shem Tov. À Meknès, voilà. Alors il débarque. D'accord, Baal Shem Tov c'est en Ukraine.
En Ukraine, je suis là.
D'accord. Alors, écoutez l'histoire. Alors il arrive tard le soir. Donc directement, comme il n'a pas de temps à perdre, il demande la maison du Baal Shem Tov, il toque à la porte. Le Baal Shem Tov, il dit qui est-ce? Il pose la question, il dit qui est-ce? Il répond, il dit Annie, c'est moi. Parce qu'il voulait pas dire son nom. Rappelez-vous,
il veut venir d'une façon anonyme.
Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est moi. Alors, le Baal Shem Tov, il lui répond avec un pasouk. Il lui dit, Im isater ish ba mistarim va ani lo erenu. Si un homme, il croit qu'il va se cacher, va ani lo erenu et moi je le verrai pas. Alors le Baal Shem Tov, il commence à lui expliquer le verset derrière la porte. Hein. Il lui dit, je vais vous expliquer ce que veut dire ce verset. Ce verset veut dire qu'une fois une personne, il pense qu'il va se cacher. Mais en vérité, nous on sait que Va'ani, que son problème, c'est pas qu'il étudie pas la Torah. Il étudie la Torah. Mais il a un problème, c'est que Va'ani, tout tourne autour de moi, de son ego. Alors qu'est-ce que dit Dieu? Lohar et nous, celui-là je veux pas le voir. Wow. Il a entendu ça, il a dit, c'est bon, ouvrez la porte.
Il a compris.
Direct. Le Baal Shem Tov, pac, il a cerné direct. Il a dit, toi t'étudies la Torah, mais tout tourne autour de ton ego. Parce que tu attends comment les gens vont te respecter, qu'est-ce qu'ils vont te dire, etc. Et comment les gens vont le respecter. Il a ouvert la porte. Et il est resté chez le Baal Shem Tov pendant plusieurs mois. Après, le Baal Shem Tov, il a dit, maintenant que tu as fait des efforts, hein, maintenant je vais t'expliquer un autre pirouche du même pasouk. Im isater ish. Si un homme, il va se cacher. Va mistarim. Va ani lo. Et le va'ani, l'ego, lo. Lo, ça veut dire, il l'a cassé. Alors là, Kadosh Baruch Hu répond, ar enu. Là, celui-là, je vais le voir. Il y a un jeu de mots, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi c'est un jeu de mots, mais ça veut dire que le Baal Shem Tov lui a montré clairement comment ce qu'il y avait de très grave chez cette personne-là, qui pourtant était un érudit, un grand Talmid Chacham. Et qu'il arrive en haut au Gan Eden, c'est Gan Eden direct, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de jugement ici. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le premier chapitre. On n'est pas là en train de voir est-ce qu'il sera bien jugé ou mal jugé. Si vous voulez savoir est-ce que c'est permis ou interdit, vous ouvrez un Shulchan Aruch. C'est pas pour ça qu'on fait un cours de Tania. On fait pas un cours de Tania pour voir ce qui est permis, ce qui est interdit. On fait un cours de Tania pour voir quelle est la définition du bien et du mal. Qu'est-ce que lui a dit le Baal Shem Tov? Je pense que c'est une histoire qui est très 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 profonde, qu'il va falloir plusieurs cours pour comprendre cette histoire. Qu'est-ce que lui dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov lui dit, tu crois que t'es érudit? Eh bien, mais t'es érudit. Tu connais beaucoup de Torah, tu fais beaucoup de mitzvot, tu fais pas d'averot. Quand tu vas arriver en haut, t'auras Gan Eden, directement à te faire le tapis rouge. Y a pas de problème. T'es bien, t'es cachère, t'inquiète pas. Mais Va'ani! Va'ani! Tout ça, c'est autour de Va'ani, de moi, de ton ego. C'est pas bon. Dieu, il te dit, l'or et une personne comme ça, je vais pas le voir. Comme a dit la Gemara, elle raconte, la Gemara a dit que celui qui est Ga'ava, celui qui est orgueilleux, Kadosh Baruch Hu, il dit, Ein ani va'u yicholim ladour. Il dit, lui et moi et lui, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, on peut pas habiter ensemble. Je peux pas habiter avec lui. D'ailleurs, on raconte à propos du rabbi Israël de Rougine. Ça, c'est pas Meknes non plus. Et Rabbi,
on rien dit. C'est quand tous les amis que je suis en Meknes.
Rien. On raconte à propos de Rabbi Israël de Rougine. Une fois, il était invité dans une ville. D'accord? Et quand il arrive dans la ville, avant qu'il arrive, ses chassidim lui ont dit, voilà, il y a deux personnes plusieurs personnes qui sont proposées, mais les deux options qu'on a retenues, deux personnes qui se sont proposées pour vous inviter à la maison. Ils sont prêts à tout préparer la maison, ils mettent toute leur maison à vos dispositions pour recevoir vos élèves, le temps que vous êtes dans la ville, tout ce qu'il faut. Alors, c'est quoi les options? Il dit voilà. Il y a un, c'est un grand Talmid Chacham, mais il est orgueilleux. L'autre, bon, c'est un juif simple, pas spécialement Talmid Chacham, bon, juif cachère, sans plus, mais il a une bonté extraordinaire. Mais bon, ça veut dire que c'est pas spécialement un érudit, et même moins, d'accord? Bon, il est cachère tout juste. Quand on pose la question à Rabbi Israël de Rougine, lequel vous voulez, Rabbi Israël de Rougine répond à son chamash, il lui dit, juste amenez-moi chez celui qui est cachère. Ça fait un scandale dans la ville. Comment? Il va pas chez le Talmid Chacham, et il est parti chez un simplet, etc. Qu'on ne sait même pas si c'est cachère ce qu'il fait. Vous savez, les gens, quand ils veulent parler, après, ils débitent. D'accord? Alors, et ça a fait un, du coup, l'autre, tu vois, du coup, on a fait un grand sadique, l'autre, on l'a rendu rachat en toute la tombe. Alors, quand Rabbi Israël de Rougine, bon, lui, Rabbi Israël de Rougine a fait comme si de rien n'était, et quand, à un moment, ça commençait à prendre de l'ampleur, parce que des fois, les scandales, bon, ils s'arrêtent. Et là, le scandale commençait à prendre de l'ampleur, les gens, ils parlaient, surtout les opposants, etc. Alors, quand le scandale commençait à prendre de l'ampleur, il y a le chamash qui est venu voir Rabbi Israël et dit, écoutez, il faut vous expliquer ce que vous avez fait, parce que là, dans la ville, même nous, les chassidim, on comprend pas pourquoi vous avez fait ça. Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Israël? Il a dit, c'est très simple. Et je me suis basé sur la Gemara, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Il dit, d'un côté, on voit que la Gemara a dit que même une personne qui est rachat, Akadosh Baruch Hu dit, imo anochi, je suis avec lui. Que même quand il est rachat, la Shrina, elle reste avec lui. Mais cette même Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que celui qui est orgueilleux, Dieu dit, je veux pas habiter avec lui. Quelqu'un avec qui Dieu veut pas habiter, tu crois que moi je vais aller chez lui? Même si l'autre était rachat, mais qu'il me cacherait sa maison, je préfère aller chez l'autre. D'accord? Bon, du coup, ça a calmé un peu l'histoire, je sais pas combien ça a calmé, mais en tout cas, il a expliqué pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là, on explique qu'en vérité...
C'est une leçon de modestie.
Grande leçon. Ça veut dire que de là, on explique qu'en vérité, d'après la Chassidout, la définition du bien et du mal, c'est très simple, ça tourne autour de l'ego. Le bien, c'est ce qui est pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Le mal, enfin, tout ce qui est de l'autre côté, c'est ce qui n'est pas pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc si c'est pas pour le service d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, c'est pour qui? C'est pour mon ego. C'est pour moi.
Ça tourne autour de moi, c'est pour mon plaisir, parce que je veux le faire, parce que j'en ai envie, parce que ça m'énerve, parce que ça me plaît pas. Donc c'est moi. L'ego, c'est mal. Mais je suis conscient que constamment, c'est le moteur de notre vie. Mais on est en plein dedans.
Et on
peut pas s'en passer. Très bien. C'est pour ça qu'on dira plus tard, l'Admor HaZaken dira, sur ça il rejoindra Freud, Lavdil, que Behemet, sur ça on peut pas changer. On peut pas détruire l'ego d'une personne. C'est impossible. Sinon on va chez les psychiatres. On peut pas détruire l'ego d'une personne. Alors qu'est-ce qu'attend de nous la Torah? Qu'est-ce qu'attend de nous? Qu'est-ce que tu m'attends? Dieu il m'a créé avec un ego, tu veux que je me sente mal? Il m'a créé comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
C'est un ego ou la conscience?
Non, c'est l'ego. L'ego. La conscience, c'est pas un problème. La question est pourquoi je fais? Pourquoi je fais? Chaque chose qu'on fait, il y a une raison. Pourquoi je le fais? Tu comprends? Là devant moi, j'ai un cornichon. Je vais le manger. D'accord? Je l'ai pas encore mangé. Pourquoi je vais le manger? Pourquoi tu le manges? C'est compliqué. Non. Ah, attention, non. Faux. Non, je vais faire une bracha dessus. Mais est-ce que je l'ai mangé pour faire une bracha dessus?
Pour prendre des forces. Ah oui. C'est pas le choix, oui.
Pour prendre des forces pour pouvoir étudier.
Hein?
Oui, ah oui, ah oui. Sinon, tu manges
comme... La bracha, c'est pour prendre des forces pour étudier.
Ça, c'est sûr.
Parce que quel fou va prendre une bracha à 9h30 du soir comme ça en plein cours?
On pourra se défendre, marcher. On dira, tu nous as créé un...
Il n'y a pas de problème, t'es cachère. On n'a pas dit que t'es pas cachère, t'inquiète pas, Gan Eden. Vas-y, plonge. Moi, je veux pas Gan Eden. Moi, je veux faire le bien. Comprends? Rappelez-vous l'histoire que j'avais racontée, ça fait deux mois. L'histoire que j'ai racontée, ça fait deux mois du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, une fois, il a donné son Gan Eden, et vraiment, il a donné. Pour construire un mikveh dans une ville. On parle pas de Gan Eden, là, maintenant. On n'est pas en train de construire un patrimoine immobilier dans le ciel. C'est pas mon but. Mon but, c'est de savoir que je veux faire le bien. Le bien, parce que c'est le bien. Pas parce que j'aurai un patrimoine immobilier en haut. Tu comprends?
Ouais,
il y a des gens qui construisent leur patrimoine immobilier en bas, il y a des gens qui le construisent en haut. C'est pas notre but. Moi, mon but, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bien. C'est très compliqué comme question.
Pour la vérité, c'est pareil, ce que tu avais dit la fois dernière.
Pour la vérité, oui.
Bah oui.
Que quoi?
Dès lors que tu fais le bien que pour le bien, la vérité n'existe que parce qu'elle est vérifiée.
Ah, d'accord. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que dans chacune de nos actions, il y a plusieurs raisons qui viennent se greffer. Plusieurs choses, plusieurs raisons. D'accord, ben oui. On va continuer. De toute façon, vous inquiétez pas. Si aujourd'hui la deuxième partie du cours est un peu floue pour vous, je pense que la première partie de ce que j'ai vu dans vos yeux, apparemment, ça avait l'air d'être clair. L'âme divine, l'âme animale. D'accord? Maintenant, la deuxième partie, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Bon, c'est encore un peu flou, c'est normal parce qu'il nous faut finir le chapitre pour comprendre. Il y a un chapitre entier que sur ça.
Si c'est considéré comme étant du mal.
Non, j'ai pas dit que c'est du mal. Attendez, j'ai pas dit que c'est du mal.
Il n'est pas dans la
catégorie. C'est pas du bien.
Il n'est pas dans la catégorie du bien.
L'autre côté.
On considère qu'il n'est pas dans la catégorie du bien, cependant, j'en ai besoin pour faire le bien.
Très bien. Donc si je le prends dans la kavana de faire le bien avec, c'est une chose.
Ben oui, mais même si c'est pas dans la kavana. Si je mange pas, comment je vais venir
Monsieur Benita, vous êtes déjà allé en vacances? Vous êtes déjà allé en vacances?
Oui.
Pourquoi vous allez en vacances?
Parce que j'ai envie. Ben,
oui, c'est vrai.
J'ai envie.
Pourquoi vous avez envie d'aller en vacances?
C'est les pulsions, parce que...
Pourquoi? Quelles pulsions?
Pourquoi? Parce que j'ai des envies.
Il y a une pulsion, et une pulsion, on va aller en vacances?
Enfin,
je la connais pas, encore.
Ce sont des envies. Soit parce que c'est une envie, soit parce qu'on se sent fatigué, soit parce qu'on veut changer d'air.
Donc on va en vacances pour se...
Se reposer.
Pour se reposer. D'accord. Donc on va en vacances pour se reposer pourquoi?
Parce que on a travaillé toute une vie, toute une année, etc.
Est-ce qu'on va en vacances pour se reposer parce que c'est un repos mérité? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour les vacances.
Bah oui,
c'est l'inverse.
On est d'accord?
Bah oui.
C'est comme ça que ça marche. J'ai un travail pour les vacances.
Bah oui.
C'est comme ça. La Torah te dit, j'ai pas dit que c'est assourd, y a pas de problème, c'est moutard. Mais si on réfléchissait dans le sens de dire que je fais le bien, et que même mes activités mondaines, je les fais pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas que je travaille pour les vacances. C'est je me repose pour mieux travailler après. Ça n'a rien à voir. C'est deux optiques complètement différentes. Qui sont complètement différentes. Parce que, je vous explique en quoi c'est la différence. Celui qui a travaillé pour les vacances.
Ouais, enfin,
Laissez-moi finir. Pas du tout. Écoutez bien. Celui qui travaille pour les vacances, quand il arrive en vacances, il lâche tout. Il oublie tout. Plus de filine, plus de cachère, plus rien. Et il dit, ça y est, j'ai travaillé pour les vacances, repos mérité. Le bon Dieu, je le donnais pendant 11 mois, il peut me donner, pendant un mois, il peut fermer les yeux. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. D'accord? Hein? C'est vrai. Ils te disent, j'ai travaillé 11 mois, j'étais à la synagogue tous les Shabbats, pendant un mois, Dieu,
tu fermes les yeux, tu fais une pause, tu vois rien, tu m'oublies.
Non,
tu m'oublies.
Non, non,
pourquoi?
Il tient pas ce langage là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il a fait ça pendant 11 mois, donc c'est quelqu'un qui est habitué, donc le 12e mois, il le fera.
Ramon Varachoum, détrompez-vous.
Non, non, il n'y a rien à faire.
Amen. Amen. Je vous dis amen.
C'est normal,
amen.
Il fait chez lui à la maison. Peut-être qu'il ne va pas à la choule, mais.
Mais il a parlé de ça. Il y a des gens, celui qui est dans sa tête, pourquoi il va en vacances? Parce que c'est un repos mérité et il a travaillé pour les vacances. Il y a des gens qui, quand ils vont en vacances, ils oublient tout. Il n'y a plus rien. Et après, ils disparaissent, on reviendra, on va recommencer. Par contre, celui qui a une réflexion saine, qui dit non, il dit je me repose pour travailler, pour servir à Kadosh Baruch Hu, là c'est différent. Et on sent la différence dans les vacances. Pour montrer que quoi, que c'est le même acte, il est parti en vacances. Il est parti exactement au même endroit. Mais tout dépend comment il a compris la chose. Pourquoi il l'a fait?
Mais celui qui
tout
dit,
change.
Celui qui dit je me repose pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas la preuve que celui-là, là même, il va faire les prières pendant ce mois-là.
Pas de problème.
Etc.
Oui, ça c'est clair.
Donc il peut se comporter de la même manière que l'autre.
C'est clair. C'est clair, mais après tout est dans la démarche.
Alors c'est
comment je prends la chose,
hein? Alors bon.
OK. Bon,
non, je l'œil de l'autre.
Pardon.
Il s'agit pas de se voir dans l'œil de l'autre, c'est toi et ta conscience.
Donc, Ve'en Hakadosh Baruch Hu, je finis avec ça. Ve'en Hakadosh Baruch Hu shore et là davar shebatel la solid barer. Voilà, donc on va finir avec ça. Donc en d'autres termes, je vais résumer ce qu'on a eu aujourd'hui. Aujourd'hui dans la première partie du cours, on a expliqué que exactement la même structure qu'on avait pour l'âme divine avec les trois facultés intellectuelles, Chochma, Bina, Da'at, les sept midot, les trois vêtements qui sont pensée, parole, action, d'accord? Et donc les moyens d'expression qui sont la Torah et les mitzvot. On retrouve exactement les mêmes modes d'expression, les mêmes choses, même structure, même trois modes d'expression dans l'âme animale. Exactement la même chose. Sauf que l'âme divine, elle veut faire le bien. Elle veut aimer le bien, d'accord? Elle veut faire le bien. L'âme animale, est-ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est apparemment des pulsions animales, tout le contraire. Alors, c'est là qu'on a dit, oui, mais animal, ça veut dire quoi? C'est mal ou c'est pas mal? C'est là qu'on est en train dans la deuxième partie de ce cours, dans la deuxième partie de ce chapitre-là, dans laquelle on a commencé à expliquer, finalement, qu'est-ce que le mal? C'est quoi le mal? On a fait que commencer à expliquer. On a dit que finalement, il n'y a pas de mal, il y a ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et donc finalement, la vraie définition, c'est pas le bien et le mal. C'est ce qui est pour Dieu et ce qui est pour moi. Et qu'il y a un conflit constant entre qu'est-ce que je fais pour Dieu et qu'est-ce que je fais pour moi. Maintenant, il faut bien comprendre que ça, c'est la base de toutes les mitzvot et de la averot. Pourquoi? Regardez, c'est très simple. Quand je fais une mitzvah, d'accord? Quand je fais une mitzvah et que j'avais pas envie de la faire, c'est la volonté de qui est passée en première?
Dieu.
La volonté de Dieu. D'accord? Quand maintenant je fais une avera, je sais que Dieu me l'a interdit, mais moi, j'ai envie de la faire. C'est la volonté de qui est passée en premier? C'est la mienne. Donc c'est mon ego qui est passé en premier. C'est-à-dire tout tourne autour de ça. Est-ce que je suis annulé à Dieu? Je fais ce que Dieu me demande et c'est tout? Ou est-ce que ça tourne autour de mon ego, je veux le faire, donc je le fais. Toute la vie tourne autour de ça. Donc il n'y a pas trois définitions, il n'y a pas trois zones, il y a deux zones. Est-ce que je fais pour Dieu ou est-ce que je fais pour moi? Quand je fais pour moi, eh ben, je serai capable de faire même le mal. Parce que c'est pour moi. Donc maintenant j'invite ça, tu me laisses tranquille, j'ai envie de le faire.
Quand on arrive à ce niveau-là, on est presque des dieux.
Ok, alors c'est une bonne question ce que vous posez. Non, c'est une bonne question, très bonne question. C'est pour ça qu'on expliquera dans chapitre 8, c'est dans pas longtemps, dans deux chapitres, juste après là, chapitre 8. C'est pour ça qu'on expliquera, que Béhémeth, il y a le tzaddik, le rachat et le benoni. C'est ça? Le tzaddik, c'est celui qui arrive au niveau dans lequel tout ce qu'il fait, il fait pour Dieu. Après, on aura le moyen, et après, on aura le rachat. Donc là, on va arriver à des nouvelles définitions. Mais encore une fois, ne perdez pas de vue. On n'est pas en train de voir tzaddik, rachat, benoni pour savoir est-ce qu'on sera jugé bien ou est-ce qu'on sera jugé mal. Là, tu veux savoir le din, tu ouvres un shulchan aruch. Et probablement que Dieu, lorsqu'il va nous juger en haut, il va nous juger par la majorité des actions, et je suppose que la majorité de nos actions sont bonnes. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, je vous rassure, probablement qu'aucun de nous ira au Gehinnom. Peut-être on passera un petit séjour de quelques jours, quelques mois. Non mais attendez. C'est très simple. Quand vous... Attendez, c'est très simple. J'explique, deux secondes, attendez. Je vous rassure, d'accord? Je vous rassure. Parce que, étant donné que quand on arrive en haut, on va nous juger sur la majorité de nos actes, d'accord? Si la majorité de vos actes sont cachers, il n'y a pas de maximum, il faudra un petit séjour au Gehinnom pour nettoyer, parce qu'il faut du karcher, d'accord? Bah oui, des fois, il faut un gros karcher qui dure quelques mois, mais après c'est fini. Après c'est fini. On n'est pas là en train de juger. D'accord?
Un mot, et non, pour tout le monde. Ouvrez bien vos oreilles, les amis, ouvrez bien vos oreilles tous, écoutez-moi bien. Ça c'est Rav Dinovitz qui dit, écoute-moi. Rav Dinovitz, d'accord? Il dit qu'une seconde, écoute bien ce que je veux dire, ça c'est que, une seconde au Gehinnom, ça vaut pas toutes les souffrances de toute l'humanité depuis que le monde a été créé.
C'est vrai, mais ça passe. Mais ça passe.
Non, mais il reste pas sur un truc.
Mais ça passe.
Toutes les souffrances de toute l'humanité.
Mais ça passe, Serge, ça passe.
Oui,
ça passe. Pour le plus grand rachat, le maximum du Guéhinnom, c'est un an.
Oui,
après. Un an. C'est tout. Un an. Non, pas 11 mois. On s'arrête à 11 mois pour pas dire que celui pour lequel on fait Kaddish, il est rachat à tel point qu'on fait un an Kaddish pour lui.
Ah, c'est pour ça qu'on va.
Le maximum, c'est un an. C'est tout.
Et d'où vous tenez ça? D'où vous tenez ça?
C'est la base du Kaddish.
Ah bon?
Bien sûr.
Ah,
c'est ça. La raison, d'accord? Le maximum, c'est... ça veut dire, on n'est pas là maintenant en train de voir est-ce que en haut on va bien me juger ou mal me juger. C'est pas, on n'est pas là pour ça.
Un an.
D'accord? C'est un an. C'est rien un an. C'est rien un an. C'est rien un an. C'est rien un an. Regardez. Rosh Hashanah, c'était hier. Pour Rim, c'est demain. C'est fini.
Déconner toute votre vie pour un an de peu de.
On n'est pas là pour ça.
Ça veut dire ne faites pas d'avéra, quoi.
J'ai pas dit. Ça, bien sûr que ça fera très mal le Guéhinnom, c'est clair. J'ai pas dit ça fait pas mal. Mais je dis c'est pas pour ça qu'on fait les mitzvot. On fait les mitzvot parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et je veux faire le bien.
Ouais, mais c'est quand même pour ne pas aller au Guéhinnom. Hein.
Oui. Bon,
vous connaissez le Guéhinnom? Vous avez peur du Guéhinnom?
Bah oui. Oui, oui.
Vous avez peur du Guéhinnom? Sérieusement?
Bah oui.
Pourquoi vous avez peur?
Parce que on nous raconte.
Il y a des pics là-bas, vous piquez.
C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit.
Hein. J'ai peur du Guéhinnom.
Ben c'est ce qu'on dit, ça dépend. Il y a tout un fantasme qui est construit tout autour de ça. Alors, oui, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai?
Toi, excuse-moi. Toi, t'as peur du Guéhinnom. T'as peur ou non?
Pourquoi tu as peur? T'as une crainte? T'as pas peur? J'ai peut-être une crainte lointaine.
Donc dans ce cas t'as peur tu fais non si excuse-moi si t'as pas peur tu fais n'importe quoi après
pas du tout sans vous et sans je peur. Fais le bien parce que c'est le bien j'ai une âme d'accord mais ça c'est une notion qu'on va revenir la semaine prochaine
voilà.
Non t'inquiète pas ça peut se développer je fais le bien parce que c'est le bien et je fais pas le mal parce que c'est le mal c'est tout
mais c'est que on a un peu nous